la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Lina Eladji, doctorante en chimie biologique. Bonjour Lina.
Bonjour Elodie.
Je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui à mon micro, j'ai hâte que tu te déshabilles. On s'est rencontrés il y a très peu de temps, notamment lors du prix dont on va parler de la Fondation L'Oréal, le prix Jeune Talent 2023. Et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes à la fois tes recherches et puis tout le reste. Si tu veux bien, traditionnellement, on va commencer avec la blouse sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant d'enfiler cette blouse virtuelle, ma question c'est, est-ce que tu portes une vraie blouse au labo?
Oui. Alors, ça dépend des jours, mais il y a des jours où je porte une blouse, oui.
Alors, est-ce qu'il y a certains invités qui nous expliquent qu'ils portent des blouses, par exemple, quand ils travaillent sur des trucs sales ou sur des trucs plutôt stériles? C'est la même chose pour toi?
C'est tout pareil. Donc, il y a effectivement des expériences qu'on fait dans des conditions stériles. Donc, à ce moment-là, je porte une blouse, mais il y a d'autres types d'expériences. Par exemple, quand on regarde des cellules au microscope, où là, il n'y a pas forcément besoin d'être en blouse. Et à ce moment-là, je ne l'ai pas sur moi.
Voilà, donc de temps en temps, tu as ta blouse.
C'est ça.
Je te propose de l'enfiler et puis de nous raconter tes recherches en quelques mots.
Donc, moi, je travaille sur le développement de rapporteurs fluorescents pour l'imagerie biologique.
Ouais.
Ça, c'est la grande phrase.
Ouais.
Et un peu plus dans les détails, en fait, on va aller accrocher soit des molécules, soit des grosses protéines qui vont émettre de la lumière pour pouvoir observer d'autres protéines dans les cellules, voir comment elles fonctionnent, etc.
J'en parle parce que moi, je travaillais là-dessus. Je suis toujours très fan. Quand j'ai vu ton projet, L'Oréal, je te la tiens. Trop bien. Tu aurais peut-être sauvé ma thèse si jamais tu avais travaillé là-dessus. Donc, si tu avais eu des résultats avant que je fasse ma thèse, parce que moi, ça m'a pourri 6 mois de travail, cette histoire. En gros, parfois, on a envie de voir ce qui se passe. Enfin, moi, en tout cas, dans le cadre de ma thèse, je voulais voir en temps réel une protéine, donc la protéine sur laquelle je travaillais, qui était censée sortir des cellules. Et on se disait, ça se trouve, en fait, quand il y a une mutation qui cause une maladie, bah, peut-être qu'elle reste coincée dans la cellule. Et du coup, ces rapporteurs fluo, en fait, c'est ça. Hein, c'est juste une espèce de petite lumière qui te permet de suivre des trucs, que ce soit en temps réel ou pas.
C'est ça.
Dans les cellules et compagnie.
C'est un espèce de mouchard, en fait. On va accrocher à la protéine qui nous intéresse dans la cellule. Bah, typiquement, toi, la protéine sur laquelle tu travaillais pendant ta thèse.
Ouais.
Et qui va éclairer cette protéine. Et en fait, quand on voit de la lumière, c'est une façon de détecter la protéine qui nous intéresse. Et bah, cette lumière, on peut la quantifier, on peut regarder l'évolution de son intensité au cours du temps, on peut regarder où est-ce qu'elle déplace dans la cellule. Donc ça nous permet de récolter des informations sur la protéine qui nous intéresse.
Et toi, tes recherches, c'est là-dessus, mais qu'est-ce que tu essayes de faire avec ces mouchards?
Donc en fait, nous, on est plutôt de l'autre côté, on est plutôt dans le développement de ces mouchards-là.
Ouais.
Et l'idée, ça va être de développer des mouchards très, très différents, enfin, de faire une espèce de boîte à outils de mouchards à mettre à disposition des biologistes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rapporteur fluorescent parfait.
Ouais.
Donc, en fonction de ce qu'on a envie d'observer et de l'information qu'on a envie d'avoir, on ne va pas forcément utiliser les mêmes rapporteurs. Typiquement, quand on a envie de regarder des choses profondément dans les organismes vivants, on va plutôt privilégier des rapporteurs fluorescents dans l'infrarouge parce que c'est des longueurs d'onde qui sont très peu absorbées et qui traversent bien les tissus. Si on a des protéines petites typiquement à observer, on a envie d'utiliser des rapporteurs qui sont aussi petits pour pas perturber leur fonctionnement. Des fois, on a envie de regarder plusieurs choses dans la cellule.
Ouais.
Et donc, pour pouvoir les différencier, il ne faut pas qu'on ait les mêmes lumières, donc les mêmes couleurs. Donc, on va utiliser des rapporteurs fluorescents de couleurs différentes. Donc, en fonction de la question qu'on se pose et de ce qu'on a envie d'observer, on va utiliser des rapporteurs fluorescents différents. Et nous, l'objectif, c'est de développer des rapporteurs fluorescents de plusieurs types afin, du coup, d'équiper les biologistes de rapporteurs fluorescents qu'ils pourraient utiliser pour répondre à toutes les questions qui se posent.
Écoute, c'est super intéressant. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ces petits mouchards. J'aime beaucoup cette comparaison. On va lâcher la science et la blouse. Donc, je te propose maintenant d'enlever ta blouse et de laisser la science et de nous parler un peu de toi. Donc, moi, ma grande question, c'est la recherche, comment c'est venu? Est-ce que c'est un truc que tu voulais faire quand tu étais petite? Et pourquoi ce sujet? Tu vois, c'est un peu les deux grosses questions. Pourquoi la recherche et pourquoi ce sujet? Raconte-nous tout ça.
Alors, pourquoi la recherche? C'est pas quelque chose qui est venu de l'enfance, on va dire. Je ne me suis pas dit toute petite que j'avais envie de devenir chercheuse ou même de faire des sciences, en fait. En fait, c'est assez marrant parce que c'est venu au lycée, c'est venu d'un film. C'est venu d'un film qu'on avait vu en cours une fois. Il s'appelle Les Palmes de Monsieur Schultz. En fait, c'est une adaptation cinéma d'une pièce de théâtre qui raconte un peu la vie de Marie Curie et sa découverte, un peu sa vie scientifique, sa vie avec Pierre Curie et de leur découverte qui leur ont valu le prix Nobel. Et je sais pas, voir comment ça se passait au laboratoire, les voir faire leurs recherches, écrire dans leur cahier de labo, faire des expériences, s'exciter aussi devant les nouveaux résultats et tout. Je me suis dit, tiens, ça a l'air chouette comme métier, ça, quand même. Et du coup, je me suis renseignée un peu et j'aimais bien les sciences aussi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et
Excellent.
donc j'ai intégré des classes préparatoires scientifiques après le lycée. Et c'est là, en fait, en classe préparatoire, que j'ai découvert la chimie. Je me suis dit que
OK.
c'était une science qui était très intéressante d'étudier la matière et les différentes transformations qu'elle peut subir. C'est assez excitant, puis ça permet aussi d'expliquer beaucoup de choses qui nous entourent, vraiment au niveau élémentaire, au niveau moléculaire de ce qui se passe. Et je me suis dit que continuer dans la chimie, c'était ça que j'avais envie de faire. Et du coup, c'est là où j'ai intégré l'École normale supérieure au département de chimie. Et là, ma vie a changé.
Comment ça?
À l'école, en fait, on nous a initié à la recherche. Donc, tous les profs qu'on avait, c'était des enseignants-chercheurs qui menaient leurs recherches pour beaucoup dans des laboratoires juste à côté des salles de cours qu'on avait. Donc, on était vraiment dans le bain de la recherche. Et c'est vraiment ces rencontres que j'ai faites à l'école qui m'ont confortée dans ce choix-là et qui m'ont donné envie d'aller explorer ça de plus près. Et c'est comme ça que j'ai fini en thèse. Et voilà.
Et voilà, donc tu t'es dit une thèse, pourquoi pas? Et ce sujet-là, pourquoi?
Je cherchais en fait un sujet qui puisse allier un peu de chimie, un peu de physique et un peu de biologie.
Ok,
Et
tiens.
c'est là en fait où l'imagerie, c'était ce qu'il y avait de plus évident. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point en fait, c'est que moi, je trouve ça en fait très beau. C'est bête, mais je trouve que la microscopie de fluorescence, ça donne souvent des très très jolies images. Et ça nous permet vraiment de voir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil. Et cet aspect-là, en fait, ça me fascine et c'est un moteur aussi dans ce qui a motivé.
Ouais, je pense que l'imagerie, effectivement, même si parfois, on en parlait la dernière fois, on fait des manips, c'est beau, même si biologiquement ça veut rien dire, ça donne des super images. Et c'est vrai que c'est hyper motivant. Moi, j'adorais passer des jours, des après-midi entiers parfois dans ma salle de microscope à prendre des photos qui étaient magnifiques. Et c'est vrai que c'est un des trucs qui est vraiment très, très cool. Et c'est beau, enfin, c'est un mix en fait presque entre de l'art et de la science, quoi.
Exactement.
Il y a des photos que tu prends en microscopie qui sont vraiment mais tellement folles que ouais, tu as envie de les accrocher chez toi en fait, de les tirer en grand. Est-ce que tu en as d'ailleurs comme ça? C'est quoi ton image du microscopique préférée que tu as prise?
Alors, l'image de microscopie préférée que j'ai prise, je dirais que. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit que quelque chose auquel on s'intéressait, c'était de regarder plusieurs choses simultanément dans la cellule. Et donc ça, en général, ça donne des images de plusieurs couleurs. On a plusieurs choses qui sont marquées dans la cellule de couleurs différentes. Donc ça, c'est des jolies images. Et en fait, il y a une autre façon de regarder simultanément plusieurs choses dans la cellule. C'est en explorant une propriété de fluorescence qui s'appelle le temps de vie. Et en gros, l'idée, c'est que on va utiliser des rapporteurs fluorescents qui ont la même couleur. Donc ils vont tous apparaître vert, rouge, enfin, tous de la même couleur, mais qui vont avoir une signature en temps de vie qui est différente. Et à ces différents temps de vie, on va pouvoir associer une espèce de fausse couleur. Et ça donne en fait des images assez marrantes où quand tu regardes au microscope, tout apparaît de la même couleur, donc tu ne sais pas trop ce que tu regardes. Et là, quand tu passes en temps de vie, tu vois chaque structure que tu as marquée avec chaque rapporteur de temps de vie différent d'une certaine couleur. Et du coup, tu as tout de suite de l'information qui apparaît. Et ces images-là, je les trouve vraiment très, très, très jolies.
C'est un peu comme si tu allumais ton sapin de Noël, quoi, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est ça.
Et attends, temps de vie, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui vont peut-être, par exemple, être fluorescents que 30 minutes, d'autres une heure. C'est ça le temps de vie ou...
En fait, c'est exactement la durée de vie de l'état excité. Donc, la fluorescence,
d'accord.
c'est quoi? C'est quand on va avoir une espèce qui va absorber de la lumière, mais qui va tout de suite se désexciter en émettant de la lumière, et c'est ça la fluorescence. Et ben, le temps qu'elle va passer à l'état excité pour relaxer ensuite en émettant de la fluorescence, c'est ça le temps de vie. Et en fait, c'est un événement qui est très très court, qui est de l'ordre de la nanoseconde,
D'accord.
sauf qu'en fait, c'est quand même un temps qui est caractéristique de chaque espèce fluorescente. T'en as qui vont se désexciter en 2 nanosecondes, 3 nanosecondes, même des fois 2,5 nanosecondes, et c'est des différences qu'on est capable de détecter au microscope. Et ces différences-là, on va leur attribuer une certaine couleur à chaque temps de vie. Et du coup, bah, voilà, ça va faire un sapin de Noël qui s'allume de couleurs différentes en fonction de chaque temps de vie.
Bon, maintenant, j'ai envie d'aller chercher sur Google des images, des images avec des temps de vie différents parce que ça doit être super beau. Ça me donne vraiment envie d'aller voir ça. D'une façon générale, la microscopie, c'est vraiment magnifique et je comprends pourquoi tu as craqué là-dessus. T'es en quelle année de thèse, là?
Alors, je suis en début de quatrième année de thèse. Donc, en France, c'est pas très commun de faire des thèses en plus de 3 ans, mais oui, me voilà en train de commencer ma quatrième année.
Donc là, tu finis dans un an, en gros, quoi.
Je finis en juillet à peu près.
Ok. Donc en fin de thèse. Et voilà, là on a passé sur le parcours. Tu es en train de réfléchir comment est-ce que je peux mettre des images de microscopie, des liens. Je ne sais pas si tu as des liens de super jolies images qu'on pourra peut-être mettre en description pour que
ouais,
les gens puissent
voir.
Je
pourrais t'en envoyer, ouais.
Ah super, ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, maintenant j'ai envie de voir. Je suppose que les auditeurs et auditrices ont peut-être envie de voir aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura des liens pour aller voir des images parce que là on a trop teasé. Donc. En thèse, tu as, comme je le disais tout à l'heure, tu as récemment reçu un prix Jeune Talent de la Fondation L'Oréal, donc Jeune Talent 2023. Déjà, bravo, parce que c'est énorme comme prix. C'est vraiment une belle reconnaissance. Est-ce que tu t'imaginais avoir ce prix quand tu as commencé?
Non, très sincèrement, non. J'ai même postulé cette année en me disant que je préparais en gros ma candidature l'année prochaine.
Ah
Donc,
ouais, d'accord.
C'est te dire à quel
Bien.
Point j'y croyais.
D'accord. Non, mais c'est bien te dire, c'est zéro pression, en gros, ça me fera un bon entraînement, c'est ça?
C'est ça, et puis je me disais que je commençais à approcher de la fin de ma thèse, donc que c'était bien aussi de commencer à me poser et d'écrire certaines choses, certains résultats, les mettre en forme, etc. Donc, je le voyais plutôt comme ça, et puis au final, j'ai fait sérieusement quand même. Hein.
Oui.
Mais
Bah oui, c'est un entraînement,
oui,
donc
ça
tu le fais
va.
sérieusement,
Bah oui.
mais ouais... Bah, bravo, encore plus. Et ça
Merci.
va te permettre quoi? Ce prix, il permet de quoi personnellement, professionnellement?
Il me permettra plusieurs choses. Donc, je peux déjà peut-être te
Ouais.
dire ce qui m'a permis, parce qu'il
Ah
m'a
bah
déjà
oui,
permis
carrément.
certaines choses.
Bah carrément, carrément.
Donc, à côté du prix, en fait, toutes les lauréates ont pu bénéficier d'une semaine de formation. Où en
Ouais.
fait, on a fait connaissance les unes des autres, on a pu se rencontrer, discuter et échanger beaucoup en fait autour des questions des femmes en sciences. C'était vraiment magique. Donc la formation était extraordinaire, à la fois de par son contenu, parce qu'on nous a vraiment donné des outils assez concrets pour être armés par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme en sciences.
Ouais.
Et aussi, c'était extrêmement enrichissant parce que j'ai pu rencontrer 34 autres femmes extraordinaires avec des parcours très différents, très inspirants et beaucoup apprendre de leurs expériences aussi. Donc ça, c'est vraiment un privilège de pouvoir passer cette semaine avec elles. Et pas que, parce que du coup, on continue de,
Bah ouais.
continue de se voir en dehors. Et puis, le prix en soi donc vient avec une dotation et la dotation, elle me permettra de partir en conférence pour présenter mes travaux, mais
Super.
aussi pour moi, c'est ce qui était le plus important et ce qui me tenait le plus à cœur, ça va me permettre de mener des actions de vulgarisation scientifique.
Ouais.
Et ça, c'est trop cool. Parce que moi, c'est ce qui me motive aussi.
Mais oui, carrément, carrément. Je ne vais pas dire hein, que c'est pas bien, vu que clairement, je trouve ça fantastique. Quel type d'action de vulgarisation tu as envie de faire? Alors, avec des images de microscopie, je suppose un truc super beau.
Oui, alors, une idée, en fait, que j'avais avec cette dotation, ce serait de monter une exposition autour,
Ouais.
autour justement de la thématique de la microscopie de fluorescence, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait des très jolies images. Et en allant plus loin aussi, ça utilise des beaux équipements aussi. Donc un peu monter une expo autour de l'image en elle-même, mais aussi de la prise d'image, donc montrer un peu les équipements aussi qu'on utilise. Et puis de montrer aussi des chercheurs et des chercheuses en action,
Ouais.
en train d'acquérir ces fameuses photos. Donc ça,
J'adore.
c'est une idée. D'ailleurs, voilà, si quelqu'un a des idées d'endroits qui seraient intéressés par héberger l'exposition. N'hésitez pas.
On te contacte, je mettrai ton lien, les liens pour te contacter en description. Donc, si vous avez des endroits, si vous avez envie d'exposer des photos magnifiques de fluorescence, bah, n'hésitez pas à contacter Lina.
Voilà. Et puis un autre truc aussi qui me tient à cœur, c'est le faire un peu à échelle portative, entre guillemets, parce
Ouais.
que je travaille avec une association qui est l'école à l'hôpital, auprès de laquelle j'anime des ateliers scientifiques. Et donc l'idée
Excellent.
aussi, ce serait d'avoir une exposition sous un format qui permet du coup de se déplacer dans les hôpitaux facilement,
Ouais,
parce
ouais.
qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne pourront pas, pour des raisons de santé, se déplacer dans le lieu de l'exposition même. Mais voilà,
Bah
ce
ouais,
serait de
c'est vrai.
ramener l'exposition à eux et de faire un travail justement autour de la recherche, parce que au fil de l'atelier, en fait, j'ai remarqué que c'était aussi quelque chose qui intéressait les enfants avec qui j'avais interagi, de savoir ce que
Ouais.
c'était qu'un chercheur, à quoi ça ressemblait une journée typique, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et puis à chaque fois que je montrais des images aussi, c'était « Waouh, ouais, c'est trop beau !» tout. Donc voilà, ce serait aussi de faire quelque chose comme ça. Et puis un troisième volet aussi, ce serait de pouvoir intervenir dans des collèges et des lycées pour parler de sciences, parler d'orientation, etc. Et en particulier au Maroc. Je veux dire, moi je viens
D'accord.
du Maroc,
Ouais.
aussi sensibiliser à la science chez moi aussi.
Super, mais c'est vraiment génial. Il y a une asso qui s'appelle Les Petits Cœurs d'Étoiles, je ne sais pas si tu en as entendu parler,
Non.
qui va dans les hôpitaux aussi. Par contre, c'est un peu plus axé astro, mais il y a aussi de la
Ok.
bio. Donc voilà. Mais c'est vrai que tout ça, aller chercher des publics qui sont un peu différents, penser des formats où voilà, on peut trimballer ça d'un endroit à un autre. Les hôpitaux, c'est vraiment hyper cool parce qu'il y a plein d'enfants qui sont coincés là-dedans. Et puis leur montrer, déjà les faire un peu s'évader de leur quotidien et puis leur montrer plein de choses passionnantes. Et pour moi, je trouve que la microscopie, c'est un peu l'astro du corps, quoi, tu vois. C'est
Exactement.
super beau, tu as des belles images, c'est le tout petit, tu as le très très grand et tu as le vraiment tout petit. Et c'est vraiment une super idée. Et écoute, j'espère que ça va bien avancer. On suivra ton projet.
J'espère aussi.
Si jamais ça intéresse des gens, voilà, ils peuvent toujours te contacter.
Absolument.
Et ouais, non, donc c'est génial ce prix. Et c'est vrai que bah, y a Célia Pelluet qui est l'épisode de. Il y a deux épisodes, donc l'épisode de 5, je crois, de Sous la blouse. Et c'est vrai que vous voir tout ensemble, c'était hyper chouette. C'est bien que ce prix vous permette à la fois voilà, de développer des choses avec ce financement, mais aussi s'occupe de vous avec toutes ces formations. Et d'ailleurs, on va retourner là-dessus. J'ai juste une question. Quel type de formation c'est en fait? C'est du leadership? C'est quoi?
Alors, on a eu effectivement des formations au leadership, des formations à la négociation, par exemple,
Ouais.
mais on a aussi eu des formations au développement de soi, des formations concernant les biais de genre aussi. Donc ça, c'était extrêmement intéressant aussi. Donc c'est vraiment des sujets assez, assez différents et au final, en fait, ça faisait un tout qui faisait que chacune de nous pouvait trouver quelque chose qui l'intéressait là-dedans et du coup s'enrichir avec. Et bon, c'était super.
C'est génial qu'il fasse ça. Et toi, personnellement, est-ce que tu as ressenti le fait d'être une femme changer des choses dans ton quotidien de chercheuse?
Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience où j'ai senti la différence. J'ai la chance
Ouais.
d'évoluer dans un laboratoire où ça se passe très bien et d'être très bien entourée par rapport à ça et dans une ambiance vraiment bienveillante et à l'inverse de me sentir encouragée et poussée à aller plus loin et voilà. Mais d'avoir ces formations-là, ça me permet aussi d'être plus attentive à ce qui pourrait être des situations qui ne sont pas du tout acceptables. Et voilà, et aussi d'avoir les outils pour répondre à ça.
Ouais.
Actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exclu que dans le futur, ça n'arrive pas. Donc,
on
je suis
espère
contente
pas pour
d'avoir
toi.
aussi. J'espère pas non plus. mais voilà, je me sens plus, déjà plus sensibilisée à la question, n'ayant pas moi-même vécu des grosses, enfin des soucis ou des différends. Je me sens sensibilisée à ça et je me sens armée si jamais ça devait arriver.
C'est vraiment bien parce que, bah, tu vois, typiquement, moi, en thèse, ça allait. Et en postdoc, c'est là où c'est devenu plus compliqué. Et c'était un labo très, très, très sexy. C'est très dominé. Enfin, c'était, voilà, c'était des boss, c'était très masculin, on va dire, qui laissait passer les hommes avant. Enfin, voilà, le chef a déjà dit plusieurs fois, les femmes, c'est fait pour prendre des notes et préparer le thé. Et
Super.
Ouais, non mais voilà. Et du coup, je trouve ça hyper important s'ils vous préparent parce que tu vois, dans ce genre de situation, en fait, tu sais pas quoi faire, quoi. Et puis au début, tu te dis non, mais c'est, tu vois, tu. Première chose que tu fais, tu te dis non mais c'est moi, c'est machin. Et puis en fait, quand tu commences à voir que c'est systématique, que ça pose vraiment un problème, c'est vraiment très compliqué. Mais du coup, c'est top qu'ils vous arment à ça parce que malheureusement, ça arrive encore. Et je pense qu'avoir les clés pour détecter et gérer le truc facilement sans que ça devienne vraiment, je l'espère, un gros problème, c'est vraiment un truc très important. Mais c'est ça qui est bien, c'est que moi, je le vois un peu changer. Donc voilà, être une femme en science, c'est cool. Et il y a plein de choses, notamment la Fondation L'Oréal qui soutient et qui a plein d'actions pour promouvoir les femmes en science. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En dehors du labo, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on a parlé recherche, on a parlé vulgarisation. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du labo? C'est quoi le truc vers lequel tu te tournes pour te reposer, pour te remettre d'une semaine de grosses manips, etc.
J'aime bien aller marcher.
Ouais.
Ça fait vraiment hobby de mamie. Mais j'aime bien aller me balader.
Non, mais je suis pareil, hein.
J'aime bien partir dans la forêt, ou en tout cas loin, un peu loin de la ville, pour me balader et marcher et laisser aller aussi mes pensées tranquillement, en
Ouais.
dehors de la recherche aussi.
Ouais.
J'aime bien passer du temps avec mes amis et mes proches. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et je fais au mieux pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Et je me suis récemment mise à la course à pied. Et ça,
Oh.
c'est trop cool.
Ouais.
Parce que du coup, ça me permet de maintenir une activité physique régulière. Et aussi, moi, je trouve que ça me détend beaucoup et ça me permet d'évacuer certaines choses et de revenir à l'esprit plus clair et plus apaisé.
Mais carrément, est-ce que tu t'es mise à la course avec un but en tête, genre un 10 km ou quelque chose comme ça, ou juste pour te faire du bien?
Alors en fait, c'est parti d'un week-end, enfin d'une idée de week-end avec des amis. J'ai une amie qui habite Bordeaux et elle avait vu qu'il y avait une course dans le cadre d'Octobre Rose
Ah
qu'on
oui.
pouvait faire ensemble. C'était une distance de 7 km. Alors, 7 km quand on ne court pas,
Ouais, c'est.
c'est pas mal.
C'est déjà bien, quoi. Ouais.
C'est déjà bien. Et puis, en fait, en m'entraînant pour cette course, même si enfin, il n'y avait pas d'objectif de temps en particulier, l'idée, c'était juste vraiment de la faire ensemble, de s'amuser et tout, et de courir pour une cause qui était importante pour nous, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Et du coup,
Excellent,
après cette
d'accord.
course, je me suis inscrite à une autre course, et puis une autre course. Et là, je
Ah
prépare
ouais.
le semi de Paris, donc j'ai trop
Ah
hâte.
ouais. Ah, joli, c'est quand ça?
C'est en mars,
C'est en
du
même
coup.
temps que le marathon, c'est ça?
C'est
En
un mois
mars?
avant.
Ok. Et
Après.
c'est
Ouais.
21 km, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
C'est
Donc,
ça.
bah, passer de 7 à 21, c'est pas mal.
J'ai déjà fait des distances intermédiaires, histoire que
Ouais.
la transition soit pas trop, trop brutale. Mais c'est sûr que par contre, oui, 21 km, ça commence à être pas mal pour mon corps. Donc, il faut que je m'y prépare tranquillement.
Du coup, t'as un plan d'entraînement ou c'est juste tu vas courir quand ça te fait du bien? Ou t'es en mode à fond avec un protocole, tu sais, la scientifique, tu sais, un protocole d'entraînement.
Donc jusque-là, non. Jusque-là, je courais un peu
Ouais.
au feeling. Mais 21 km, je pense qu'il faut même y préparer sérieusement, on va dire, histoire de pas me faire mal et de quand même réussir à profiter de l'expérience. Donc, j'ai une application en gros qui fait un petit programme d'entraînement. Je ne suis pas sûre de suivre aussi rigoureusement le plan d'entraînement que des protocoles de Mani, mais je vais essayer en tout cas.
Bon, bah super, on pensera à toi en mars avec tes 21 km. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais, je demande toujours le mot de la fin, ça fait toujours très... Est-ce que tu as le mot de la fin de ce podcast? Que ce soit quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou sur lequel tu voudrais revenir pour terminer cet épisode.
Je dirais que le mot de la fin, c'est que la science, c'est cool. C'était très, très geek comme mot de la fin, mais je trouve que c'est important quand même de le répéter parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé à une partie des gens hyper intelligents ou je ne sais trop quoi. La science, c'est pour tout le monde et surtout, la science, c'est tout ce qui nous entoure et il faut s'y intéresser, il faut pas avoir peur de se poser des questions et d'explorer ce qui nous entoure et d'étudier les sciences de plus près, on va dire. Et il faut rester curieux. Et ceux qui font des sciences aussi, ceux et celles qui font des sciences, faut pas qu'ils hésitent à la transmettre. Ça, c'est important. Ça, ce sera mon mot de la fin.
Ouais, ton mot de la fin, j'aime beaucoup. Effectivement, c'est bien de faire de la science, mais c'est encore mieux de la transmettre. Surtout que généralement, moi j'avais toujours cette métaphore du gâteau, tu sais, ceux qui font de la science, c'est généralement qui sont passionnés par ça. Et alors, il y a des gens qui ne sont pas faits pour communiquer, qui n'ont pas envie de communiquer, il n'y a pas de souci. Mais si on a envie, il faut vraiment essayer de le faire et faut pas hésiter. Je disais, c'est toujours un peu comme un gâteau, tu sais, tu passes des années à essayer de perfectionner une recette et pas la communiquer, c'est un peu comme si tu n'allais pas faire goûter aux gens, tu vois. Tu faisais un gâteau et puis bah voilà, il était là, il était dans ta cuisine et puis jamais personne ne le mangeait. Alors que partager ta science et montrer ce que tu fais comme recherche, c'est génial. C'est comme si tu voyais les gens manger ton gâteau et kiffer ta recette que tu as mis 4 ans à préparer.
C'est ça. J'aime beaucoup cet exemple.
Bah oui, non, mais tu vois, c'était ça. Je me disais, c'est un peu ça. C'est, tu cuisines, tu passes du temps à essayer de perfectionner un truc et puis en fait, il y a raison de ta cuisine et jamais personne n'en profite. Et je suis d'accord avec toi. Et il ne faut pas hésiter aussi si vous avez... Si vous êtes intéressé par la science, quel que soit votre âge, et que vous avez envie d'aller voir des choses, bah, n'hésitez pas, il y a plein d'initiatives. Allez discuter avec des scientifiques. Généralement, dans la pop culture, on est très très mal représenté, mais dans la vraie vie, on est quand même vachement cool, je trouve. Donc,
et vachement ouvert à en parler aussi. Donc, mais grave. Faut pas hésiter.
Faut pas hésiter. Bah écoute, j'aime beaucoup beaucoup terminer le podcast sur ce mot de la fin. Merci beaucoup Lina pour tout ça. Merci pour cet épisode. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je vais mettre tous les liens pour à la fois peut-être essayer de voir ces images dont tu nous as parlé et puis surtout pour te contacter pour plein de raisons. Voilà, si les gens ont envie de discuter avec toi et un grand merci.
Merci à toi Elodie.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @sous la blouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.